Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Cette semaine, le quotidien français La Croix se félicitait sur sa une que l'image de la France soit en train de changer à l'étranger et que les investisseurs étrangers soient de retour. Simultanément, l'Institut National de la Statistique, l'INSEE, annonçait que presque toutes les régions de France avaient profité l'an dernier, donc en 2016, d'une reprise de l'emploi. Quant à la croissance du produit intérieur brut, cette année 2017, elle devrait atteindre 1,8%, officiellement un bon résultat. Croissance, investissement, emploi, l'économie française serait-elle entrée dans un cycle vertueux? Telle est la question dont nous allons débattre avec les deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Benjamin Coriat.
Bonjour.
Benjamin Coriat, vous êtes professeur d'économie à l'université Paris 13, vous êtes également membre du collectif des économistes atterrés. Est-ce que l'économie française est entrée dans un cycle vertueux ?
Bon, moi j'irai pas si vite, ça va mieux, ça c'est incontestable. C'est aussi largement porté par la conjoncture mondiale. Les facteurs spécifiquement français qui permettraient d'expliquer ce mieux...
On va en parler dans l'émission.
Voilà, on va en parler dans l'émission. En tout cas, bon, la France vient de subir un choc, hein, à la fois fiscal, hein, si je peux dire, et en ce qui concerne le droit du travail. Ces effets, on les connaît pas encore. Donc, pour le moment, on est plutôt porté par une conjoncture. Pour la suite, on verra.
Avec nous également dans ce studio, Denis Ferrand, bonjour.
Bonjour.
Denis Ferrand, vous êtes le directeur général de Coerex Ecode, un institut de conjoncture, un institut de recherche économique réputé plutôt proche du patronat, si je ne m'abuse. Je vous pose la même question. L'économie française est-elle entrée dans un cercle vertueux ?
Elle est effectivement en meilleure forme qu'il y a plusieurs mois. Est-ce qu'elle est dans un cercle vertueux ? On pourra véritablement le dire à partir du moment où le chaînon manquant de sa croissance aura été refaçonné. Et c'est notamment le chaînon à un tiers de compétitivité, de capacité à se projeter à l'extérieur.
Alors au cours de cette émission des reportages, bien sûr, nous retrouverons Stéphane Burgat à Marseille, Yacine Kelfa à Strasbourg et Ariane Gaffuri dans les allées des Salons du Meuble à la Porte de Versailles à Paris. Denis Ferrand, on dit que beaucoup de clignotants sont passés au vert dans l'économie française, lesquels ?
Alors, les clignotants, on va dire, les plus classiques que suivent les économistes. Hein. Tout d'abord, le premier clignotant qui est celui de la croissance, vous l'avez rappelé, 1,8% de croissance sur l'année 2017. Il faut remonter à l'année 2010 pour retrouver trace d'un rythme de croissance aussi élevé, mais c'était une croissance de récupération après le plongeon de 2009. Donc, c'était une phase de... On reprenait un petit peu une bouffée d'air. Donc, il y a la croissance, mais peut-être encore plus incarnée que la croissance, c'est avant tout les créations nettes d'emplois. Dans le secteur salarié marchand, donc dans le secteur des entreprises, on va avoir 1,6% d'augmentation de l'emploi, pas loin de 300 000 emplois nets en plus, et qui plus est, des emplois qui se font de plus en plus en CDI. Donc sur cet aspect, on a l'impression qu'il y a quelque chose de positif qui s'installe, qui se voit quand même assez clairement, qui ne se voit pas forcément encore très bien dans les chiffres du chômage, qui ne se traduit pas non plus dans une accélération salariale jusqu'à présent. Mais en tout cas, c'est le premier vecteur, me semble-t-il, le premier marqueur assez positif que l'on peut retrouver.
Autre clignotant passé au vert, Benjamin Coriat.
Je cherche, j'en vois pas beaucoup, parce que commerce extérieur, c'est quand même pas, c'est pas merveilleux. L'emploi... compte tenu des effets particuliers de la population active, il n'y a pas encore de véritable mieux. C'est un petit peu mieux, mais ça suit pas la progression de la création d'emplois par le secteur privé marchand. Les bénéfices qu'on a obtenus sont beaucoup plus réduits. Donc c'est vrai que pour le moment, pour l'essentiel, c'est effectivement la croissance d'un côté, et puis ce qui a été dit, la création d'emplois marchands. Mais
la conjoncture internationale est porteuse quand même.
La conjoncture internationale est porteuse, oui, ça. Mais ça, je veux dire, c'est pas lié à la France. Ça. C'est lié à la conjoncture internationale.
Mais est-ce que l'économie française tire bénéfice de prix du pétrole plutôt faible, mais s'ils augmentent.
Oui, incontestablement.
Tire profit
d'une
économie qui se porte bien ailleurs.
L'indicateur synthétique qui est la croissance après, dans lequel il faut fouiller, bien sûr, indique bien que la France n'est pas à l'écart de cette reprise mondiale.
Et ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu ça? Vous parliez de 2010, Denis Ferrand, oui, comme récupération de 2009, mais là, est-ce qu'on est dans un mouvement plus appelé à se prolonger, à durer?
Effectivement, il faut passer les quelques écueils que vous avez rappelés. C'est le prix du pétrole, le niveau de l'euro, le niveau des taux ont été quand même des catalyseurs importants de croissance. L'environnement international, notamment dans notre voisinage. 2017 est quand même une année exceptionnelle. C'est la première année depuis 10 ans où toutes les économies mondiales sont en croissance. Donc là, c'est un peu... L'économie française s'est mise au diapason, en réalité. Mais peut-être que... En termes d'indicateurs encore plus marquants, me semble-t-il, plus révélateurs peut-être d'un changement d'esprit, c'est celui-ci qu'il faut apprécier, c'est peut-être la dynamique de l'investissement. On est quand même sur un flux d'investissement qui est reparti à la hausse, qui a été soutenu par des mesures type le suramortissement qui était intervenu à un moment. Mais même quand cette mesure s'est interrompue, la dynamique de l'investissement s'est un peu prolongée parce qu'elle vient derrière une amélioration de la situation des entreprises qui a intervenu au cours de la période 2014-2015, qui était facilité par la baisse du prix du pétrole, facilité par la dépréciation de l'euro. Mais cette baisse du prix du pétrole, cette dépréciation de l'euro, maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Et puis, elle a été aussi portée par des mesures de politique économique, CICE, pacte de responsabilité, qui ont joué leur rôle dans l'amélioration des marges des entreprises.
Donc, c'est les fruits de la politique de François Hollande que récupère la France et le gouvernement actuel, Benjamin Coriat?
Ben, disons qu'il y a un effet de rattrapage. Comme ça a été dit, la France a été... s'est trouvé tenue à l'écart d'une reprise qui était relativement large et globale. On peut dire que là, la France s'est remise dans le jeu, hein, d'une certaine manière. Incontestablement, oui, pour ce qui concerne, par exemple, la création de l'emploi marchand, la politique du CICE porte quelques fruits, c'est incontestable. Hein. Bon, est-ce que les politiques dites de suramortissement, qui sont en fait des politiques fiscales, hein, qui ont permis de réinciter
La politique de suramortissement, c'est destiné
à faciliter l'investissement.
Et à réduire les coûts de l'investissement. Donc,
à réduire les coûts d'investissement. Donc c'est une incitation à investir puisqu'on peut suramortir en termes fiscaux par rapport à l'investissement.
Donc déduire de ses impôts le coût de son investissement.
Le coût de son investissement est quelquefois presque au-delà. Hein. Bon. Donc tout ça, incontestablement, porte quelques fruits. Bien. Ceci dit, encore une fois, ça n'est qu'un rattrapage. Il est largement porté par de la dépense fiscale, parce que moi ça m'amusait toujours de dire, vous voyez bien, la France n'est pas en austérité puisque elle est à 3% de déficit. Oui, sauf que la dépense fiscale en faveur des entreprises était énorme par rapport à ça. Donc je veux dire, il y avait l'austérité pour les uns et du transfert pour d'autres. Bon, est-ce que tout ça est susceptible de relancer une croissance autonome, si j'ose dire? Ça, c'est la question qui est posée. Hein, et moi, pour le moment, je suis réservé.
Alors, certains résultats de PME confirment cette embellie de l'économie. Voici un exemple. Cartonnage d'Alsace, une PME spécialisée dans l'emballage, vient de diversifier ses activités avec la création d'une filiale, JCP Logistics, destinée à stocker des marchandises et à les expédier. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Yacine Kelfa, dans la région strasbourgeoise.
Au port du Rhin, un quartier industriel de la capitale alsacienne, JCP Logistique, la petite sœur de cartonnage d'Alsace, n'a qu'un an, mais elle est déjà très précoce. Dans l'entrepôt de cette petite entreprise, c'est le froid qui domine, mais l'activité surchauffe les salariés, et ce, toute l'année. Avec une capacité de 15 000 places palettes chaque jour, une vingtaine de semi-remorques quittent les entrepôts pour des envois de marchandises. En un an, les surfaces ont triplé, de 6 000 à 25 000 m² supplémentaires pour honorer des demandes croissantes. Et pour cette fin d'année, l'entreprise décide même de se développer dans le Haut-Rhin, un nouveau dépôt de 3 000 m² vient compléter les 3 entrepôts déjà implantés dans le Bas-Rhin. La recette, modestie, flexibilité, c'est ce que nous dit Serge Winter, le directeur.
Comme vous pouvez voir, nous ne sommes pas un des leaders mondiaux ou européens, voire même français de la logistique. Nous allons dans des secteurs où nous arrivons à nous démarquer par rapport surtout à notre flexibilité. C'est justement ce côté familial d'entreprise qui fait que justement nous arrivons à réagir relativement vite à la demande des clients. Et c'est ce que nous arrivons toujours à faire et que nous poussons de plus en plus à être justement très très flexible.
JCP Logistique peut compter sur un bon carnet de clients issus de secteurs totalement différents, comme dans le textile avec Pimki par exemple, ou dans le médical avec Biorad, ou encore dans l'électroménager. La PME peut remercier sa grande sœur Cartonnage d'Alsace, qui affiche elle une santé financière constante, qui aurait prédit autant de succès à une entreprise qui fait du carton son emblème. Quand Jean-Claude Pastel reprend cette PME, vieille de 25 ans à l'époque, en 2001, il commence seul l'emballage. Aujourd'hui, cet ancien militaire de 61 ans compte 22 salariés et quelques 300 clients, ainsi que de nouvelles performances chaque année.
On a évolué dans les chiffres d'affaires. Hein. L'année dernière, on a fait à peu près plus 15. Cette année, on va faire à peu près plus 8. Chez Cartonnage d'Alsace, concernant JCP Logistique, on était parti sur un départ à peu près 1 million d'euros. Et là, cette année, on va arriver à 2 millions d'euros.
Pour rester sur le marché pendant 16 ans, investir, embaucher, il faut réfléchir et agir comme dans un marathon. Ce sportif persévérant le répète avec modestie. Sa réussite, il la tient par son travail.
La base, hein, c'est quand même le travail, c'est quand même le service, c'est quand même le relationnel avec les clients. Tout ça fait qu'on arrive à évoluer. Et surtout, c'est pouvoir se diversifier si on peut sur différents produits et puis aussi un peu la chance. Hein. Et puis on s'entourer aussi de bons personnels, ce qui fait aussi une évolution dans l'entreprise.
Cartonnage d'Alsace et JCP Logistique ont déjà des projets pour demain, avec notamment un développement prochain chez le voisin allemand.
Un reportage signé Yacine Kelfa à Strasbourg. De différent, qu'est-ce qu'il vous inspire ?
Il m'inspire déjà par rapport à toute l'antienne que l'on peut avoir sur il n'y a d'avenir que dans les start-up. Il montre que la old economy, si vous me permettez l'expression, la vieille économie, a probablement encore de beaux jours devant elle, dès lors que, eh bien, on sait trouver les créneaux de spécialisation pertinents, que l'on sait trouver les racines les conditions d'une efficacité économique qui passe par de la diversification, qui passe par de la proximité clientèle, enfin tout ce qui a été évoqué dans le reportage à l'instant. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas de secteur condamné, comme on l'a cru à un moment. Il y a des recettes à trouver dans chacun des secteurs, des recettes en matière d'efficacité. On peut penser effectivement au cartonnage, on peut penser au textile. Ce ne sont pas des secteurs qui sont voués inévitablement à disparaître.
Benjamin Coriat.
Oui, moi je rajouterais une chose. Bon, le reportage est bref, évidemment, donc on ne sait pas tout. Mais si j'ai bien compris, c'est une entreprise de logistique adossée à une entreprise de cartonnage.
Absolument,
hein, c'est bien
ouais.
Ça. Bon, donc effectivement, c'est tout à fait intéressant. C'est de voir que de la création d'entreprise est possible, surtout lorsque elle s'appuie sur des savoir-faire, des réseaux, etc. Et donc là, on est dans un cas effectivement où c'est pas du tout des start-up, mais où c'est de la diversification. Et on peut que se réjouir, effectivement, de voir que dans des secteurs qui, en principe, sont pas des secteurs formidablement porteurs, en s'appuyant sur le savoir-faire d'une grosse PME, j'imagine, hein, s'agissant
oui,
du cartonnage.
Vous parlez de 22 salariés.
Voilà, on est capable de par diversification, de trouver des niches, et pourquoi pas.
Mais est-ce que ça veut dire que la France se réindustrialise ?
J'irai pas si vite, mais ça veut dire que la possibilité de développer ou de redévelopper de l'industrie en France existe. Et je veux dire, cette idée que la France serait condamnée à devenir une économie de service et demain un pôle financier, etc., n'a aucun fondement, je veux dire. Si on souhaite développer l'industrie en France, il y a toutes les raisons et toutes les bases et tous les savoir-faire pour le faire.
Réindustrialisation, Denis Ferrand ?
Oui, réindustrialisation, effectivement, on peut prendre quelques exemples, mais les exemples ne font pas un système économique. Donc on est encore loin de pouvoir parler d'une réindustrialisation, surtout au regard de la curée. Je pense que c'est quand même le terme adéquat pour parler de ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années du point de vue industriel. La France est probablement le pays européen, qui s'est le plus désindustrialisé au cours des dernières années, à peu près au même rythme que le Royaume-Uni. Et le poids de l'industrie dans la valeur ajoutée de l'économie en France est désormais aux environs de 12%, ce qui en fait un des poids les plus faibles de l'ensemble de l'Europe, Grèce y compris. Hein. Je crois que la Grèce doit être un petit peu derrière nous, mais c'est à peu près le seul pays que l'on voit derrière nous. Mais derrière cette idée d'atrophie de la base industrielle que l'on a connue au cours des dernières années, c'est le problème de la capacité de rebondir de l'industrie. Parce que plus votre base est étroite, moins vos capacités à rebondir sont fortes parce que vous n'avez plus les instituts de formation. Pourquoi créer un institut de formation quand le bassin industriel s'est vidé de sa substance ? Donc on a quand même un processus mortifère de désindustrialisation qui est à enrayer, déjà, avant de pouvoir parler de réindustrialisation. Je pense qu'on est plutôt dans cette séquence-là. arrêtons la désindustrialisation et ensuite on pourra...
Toutes les politiques fiscales qu'on a vues au cours des 10 dernières années, pour le moins, même plus, ont été destinées à réduire le coût du travail des moins qualifiés.
Oui.
Est-ce que ça ne fait pas de la main-d'œuvre française une main-d'œuvre faiblement qualifiée et donc peu apte à créer de la plus-value et de la richesse et à s'intégrer dans des entreprises de forte qualification ?
En tout cas, ça ancre une forme de spécialisation. Et ça ancre une forme de spécialisation sur la basse qualification, sur les bas niveaux de salaire également. Clairement, parce qu'on incite plutôt, dans une lecture mais qui est très immédiate, on veut un rendement en termes d'emploi très immédiat. Et donc pour cela, il faut baisser le coût du travail au bas de la distribution des salaires. Et c'est comme ceci que l'on peut créer de l'emploi rapidement. Mais cette démarche de politique économique, elle est aussi d'une certaine manière assez orthogonale avec toute une politique d'éducation qui dit en même temps mais il faut monter les niveaux de formation initiale au niveau des licences. Et donc, on crée une aspiration vers le haut, vers l'augmentation de la formation initiale, tout en ayant une politique économique qui incite au développement d'emplois faiblement qualifiés et faiblement rémunérateurs. Et là, il y a comme une idée d'équation qui s'installe entre une politique d'éducation et une politique économique centrée sur l'incitation au bas salaire.
Benjamin Coriat, cette contradiction entre la politique fiscale, sociale et de formation, vous la constatez aussi ?
Oui, j'ai toujours été surpris de voir cette focalisation de la dépense fiscale uniquement sur les bas salaires. Bien sûr, les bas salaires correspondent aussi à des situations de gens qui sont très défavorisés dans l'accès à l'emploi, et moi je ne suis pas choqué qu'on ait une politique en direction de ces catégories plutôt que vers ces segments de l'industrie. Je pense qu'il faut plutôt viser ça. Maintenant, l'autre aspect de la question, c'est que il n'y a pas d'avenir industriel pour un pays comme la France si on n'est pas situé au moins dans le moyen de gamme et dans la qualité. Et quand on regarde les exportations françaises industrielles, c'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme. On va parler tout à l'heure.
Peut-être.
Prenons le cas des récentes exportations et du contrat avec le Qatar. Mais pas seulement le Rafale. Le Rafale, l'Airbus, la RATP, les services autour du métro, autour du train. C'est pas du bas de gamme, tout ça. Je veux dire, notre compétence, elle est pas là. Elle est pas dans le bas de gamme. C'est une ineptie. Donc, je veux dire, autant je comprends qu'on aide les salariés à faible qualification avec des incitations fiscales à les employer, autant la politique, elle doit viser tout à fait autre chose. Elle doit viser le moyen et le haut de gamme.
Donc ça veut dire que vous êtes d'accord avec la politique du président Macron quand il abaisse les charges sur les très hauts salaires ?
Je suis assez peu d'accord en général avec la politique du président Macron. Maintenant, est-ce que c'est par de l'incitation salariale ou pas, c'est la question peut-être discutée, mais il est clair qu'il faut favoriser le moyen et le haut de gamme. C'est évident. Il n'y a pas d'avenir pour un pays comme la France, je le répète, si on ne trouve pas des niches, et plus que des niches, d'exportation dans ces domaines. Regardez l'Allemagne, hein, c'est pas du bas de gamme qu'ils exportent.
Denis Ferrand, le haut de gamme, c'est l'avenir ?
Oui, mais de toute façon, enfin, je partage complètement le point de Benjamin Coriat. Hein, c'est effectivement le positionnement qui correspond aussi à nos fenêtres de spécialisation du point de vue des qualifications. Nous devons nous situer sur le haut de gamme. Maintenant, il faut que ce haut de gamme ait les conditions de sa compétitivité et les conditions de sa possibilité de se porter vers l'extérieur. Et du point de vue de l'évolution de la compétitivité, on est un petit peu au milieu du guet, probablement. On est dans la phase où il y a eu l'amélioration des marges des entreprises, il y a eu le retour sur de l'investissement, on l'a évoqué tout à l'heure, l'investissement est reparti un peu à la hausse. Ce que l'on attend maintenant, c'est de voir véritablement les preuves de la remontée des parts de marché.
Eh bien, on en reparlera de tout ça avec vous, Denis Ferrand, Benjamin Coriat, dans la deuxième partie de cette émission Écodici Écro, d'ailleurs consacrée à l'économie française. On se retrouve tout de suite après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous retrouvent pour la deuxième partie de cet Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale et qui démonte en l'occurrence aujourd'hui ceux de l'économie française. Deux invités dans cette émission, dans ce studio, Denis Ferrand, directeur général de Coerex Ecode, institut de recherche économique, et Benjamin Coriat, professeur d'économie à l'université Paris 13, membre du collectif des économistes atterrés. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu que quelques clignotants de l'économie française se remettaient au vert, mais que ça n'était pas encore ça. On a parlé réindustrialisation. On a commencé à parler de formation, Denis Ferrand. Un de vos éminents collègues, Patrick Artus, à tous les deux, raconte à longueur d'intervention, et il n'y a pas longtemps sur les antennes de RFI, que l'un des gros problèmes de l'économie française, c'est la formation de ses salariés. Est-ce que vous partagez ce point de vue et qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, je le partage plutôt et j'en fais une double lecture, une lecture on va dire un peu de court terme et une lecture un peu plus longue. Une lecture de court terme dans le sens où la question qui se pose maintenant sur l'économie française, c'est presque la question de sa capacité à tenir la cadence de la croissance. Ce que l'on voit, c'est que la croissance, elle est 1,8%, c'est très bien par rapport à ce que l'on avait les années précédentes, mais ce n'est pas non plus le Graal, ce n'est pas non plus un rythme complètement échevelé. Et pour autant, avec ce 1,8% de croissance, on rencontre déjà des butées sur les conditions de la croissance. Des butées en termes de difficultés de recrutement, des butées sur des entreprises qui ont des difficultés d'approvisionnement également. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, peut venir freiner la croissance tout en occasionnant une accélération de l'inflation. Et ces butées, ces difficultés de recrutement, elles viennent principalement d'une difficulté de rencontre entre une offre et une demande de qualification. Donc on a ce problème de formation est un problème déjà à court terme.
Mais pourtant, tout à l'heure, vous souligniez qu'il y avait une contradiction entre l'encouragement au bas salaire et la formation à bac plus 3 ou bac plus 4. Oui. Donc il y a des gens qui sont formés et plutôt bien.
Oui, mais qui sont formés, mais est-ce que les qualifications qu'ils ont développées sont des qualifications de nature industrielle ? Est-ce qu'elles vont trouver un terrain d'application dans le domaine industriel dont on parlait tout à l'heure ? Ça, ce n'est pas évident. Vous pouvez avoir des niveaux de formation général, un bac plus 3, mais qui ne débouchent pas forcément sur une qualification professionnelle. Il ne faut pas confondre formation et qualification.
C'est un problème très vieux en France, ce problème de l'adaptation des formations aux besoins de l'industrie. Dans les années 70, il y avait des manifestations d'étudiants qui protestaient contre une réforme de la secrétaire d'État aux universités à l'époque, Alice Saunier-Seyté, dans le gouvernement Giscard d'Estaing, c'est vraiment de la préhistoire. Parce que justement, il y avait cette volonté de rapprocher les besoins de l'économie, de l'industrie, et ce que les gens qui sortaient des universités Benjamin Coriat, est-ce qu'il y a vraiment là un point de blocage dans l'économie française quant à la formation des gens qui sortent des écoles, des universités et autres IUT ?
Écoutez, la question de la formation, c'est une vaste question, et puis surtout, il faut bien regarder de quoi on parle, hein, parce que on a des problèmes dans l'enseignement secondaire, on a des problèmes dans l'enseignement supérieur, on a des problèmes dans l'enseignement professionnel, et on a surtout des problèmes en ce qui concerne la formation professionnelle en dehors du système scolaire et universitaire.
Vous parlez de la formation permanente.
Oui, je parle de la formation permanente. Alors, si vous voulez, étant moi-même à l'intérieur du système, je peux vraiment témoigner du fait que, pour ce qui concerne l'enseignement supérieur dont on a parlé, l'effort qui a été fait pour délivrer des formations professionnalisantes, si je peux dire, est considérable. Hein, il est considérable. Ça veut dire que dans toutes les universités de France et de Navarre, et franchement, je connais bien le système, le nombre de formations professionnelles qui ont été, ou professionnalisantes, qui ont été développées, est impressionnant. Hein, est impressionnant. Enfin, moi, je peux vous dire, par exemple, chez nous, à Villecaneuse, à Paris 13, oui, on délivre bien plus de formation professionnalisante ou professionnalisée que de diplôme pour de la formation générale.
Écoutez, c'est-à-dire vous formez moins de sociologues échevelés et plus de techniciens de haut niveau ?
Mais infiniment, infiniment. Écoutez, je vais vous donner juste un exemple. J'étais, pas plus tard que la semaine dernière, à une cérémonie de remise des diplômes dans notre université. Eh bien, on a remis 85 diplômes de licence
général et 350 diplômes de master qui tous sont des masters d'ingénierie financière, de conseil en entreprise, aide à l'innovation, de, vous voyez. Donc et je crois pas qu'on soit une exception, je crois pas qu'on est une exception.
Et ces 300 étudiants titulaires dorénavant d'un master, ils sont sur le marché de l'emploi avec des CDD,
écoutez,
des CDI.
Écoutez, ils sont sur le marché de l'emploi et un nombre considérable d'entre eux qui m'a étonné moi-même a obtenu pratiquement des embauches et souvent des CDI dès le stage de formation initiale, dès le stage de formation de fin d'études. Donc, si vous voulez, je pense pas que le problème principal désormais, ça a pu l'être, hein, il y a 20 ans ou il y a 25 ans, il soit de ce côté-là. Je pense que le problème, il est beaucoup plus du côté de cette masse très considérable d'argent destinée à la formation professionnelle, éclatée en une série d'offreurs et de capacités d'offres extrêmement dispersées, pas bien pensées. Moi, je pense que les vrais progrès, ils sont aujourd'hui dans ce domaine-là.
De différents.
Oui, c'est vrai qu'on voit bien que on n'a pas un problème de chômage, de toute façon, des qualifiés ou en tout cas des formés initialement. Eux arrivent à s'insérer sur le marché de l'emploi. La question qui se pose, et là je viens un petit peu à rebours de ce que l'on disait tout à l'heure sur le problème de cibler les politiques de baisse de charges sur le bas salaire, c'est que on voit qu'aussi vous avez une forme de surqualification des postes qui peuvent intervenir. C'est-à-dire que les emplois qui pouvaient, il y a quelque temps, être occupés par quelqu'un qui avait un niveau bac, vont être occupés par quelqu'un qui aura un niveau bac plus 2, enfin pour faire image, ou quelqu'un qui a un bac plus 3, un poste qui pourrait être occupé par quelqu'un qui avait un niveau de brevet, bah, désormais est occupé par quelqu'un qui a un niveau de bac, mais à la fin, celui qui est au bout de la ligne, derrière ces dominos qui se déplacent, ces dominos de surqualification des postes, qu'est-ce qu'il en advient ? C'est ceux qui se retrouvent dans la trappe à l'inactivité, ce sont ceux qui sont les moins qualifiés, sinon les non qualifiés du tout. Donc il y a vraiment une réflexion qui est sur un système global qui est à repenser, ou comment éviter aussi cette surqualification des postes, ça c'est un des enjeux que l'on a à traiter.
Prenons un autre exemple de cette industrie française, un secteur qui a beaucoup souffert de la crise ces dernières années, l'ameublement, et qui aujourd'hui se porte mieux, grâce à une légère reprise de la construction de logements neufs et à la hausse des transactions immobilières dans l'ancien. Rencontre avec des professionnels de l'ameublement au salon Esprit Meuble, au parc des expositions de la Porte de Versailles. Un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Ariane Gaffuri.
Le stand de Gaëtan Ménard, président d'Esprit Meuble et des meubles Ernest. Des meubles en bois de chêne et plaquage aux tendances beige rosé.
Et voilà.
Voilà, on a par exemple une très belle table rectangulaire. Alors, qui s'ouvre facilement.
En fait, l'idée, c'est l'ergonomie, pour pouvoir l'allonger rapidement sans avoir à aller stocker les allonges ailleurs.
Il me semble que vous étiez à l'export et que vous avez recentré votre marché en France.
Tout à fait. Les meubles Ernest faisaient près de 40% du chiffre d'affaires à l'international, que ce soit en zone sterling, sur l'Angleterre, Irlande d'une part, et très présent dans les pays de l'ex-CEI, Russie, Azerbaïdjan, Kazakhstan. En l'occurrence, nous avons économiquement beaucoup souffert au travers de la perte de ces marchés. Le choix stratégique a été fait depuis 2 ans. D'abord, de retravailler totalement notre plateforme de marque. La logique étant la suivante, c'est que, évidemment, qu'il faut repartir à l'international. Mais là où, il y a quelques années, on travaillait à l'international par du produit uniquement, aujourd'hui, nous irons à l'international par du service, par des outils digitaux forts. Donc, ce n'est pas un abandon, c'est juste de bien se préparer avant de repartir.
Se renouveler pour rebondir, indispensable pour cet entrepreneur.
Donc là, tu es sur un produit qui est spécial de sensible, donc qui est plutôt très ferme.
Du monde chez les exposants de lits et leur slogan « le bien dormir ». La literie est le secteur de l'ameublement qui se porte le mieux avec une hausse de 33% l'année dernière. Patrick est venu approvisionner ses 2 magasins dans le sud-ouest de la France.
Ça te convient bien ?
Donc là, vous êtes allongé, monsieur, sur un lit ?
Oui,
je teste, madame. Et alors, je teste avant de détester. Extraordinaire. Du confort, voilà, très important. Puis je regarde un petit peu ce qui se fait, les nouveautés et les prix. Parce que les prix, les gens demandent de plus en plus de prix.
Derrière le rire, les inquiétudes de l'entrepreneur.
Bah, vous connaissez bien nos contraintes. Des loyers extrêmement chers et puis toutes nos charges. Et le pouvoir d'achat, il n'y en a plus. Bah, c'est normal. Quand vous demandez des loyers exorbitants, ce que vous donnez à votre propriétaire, vous ne le mettez pas ailleurs pour acheter du meuble, de l'alimentation. Vous êtes au courant qu'il y a des gens qui ne mangent pas en France. Tout est cher, c'est le problème de la France.
Défendre le Made in France à l'international, un savoir-faire pour Jacques Chaffnit, qui après Total et Alcatel a pris les rênes d'Adova, numéro 2 de la literie avec des grandes marques comme Treka, Dunlopillo, Simons.
Je pense qu'on a un vrai savoir-faire en France. Il y a beaucoup de pays qui aident par exemple à l'export. Nous, on n'aide pas beaucoup les sociétés françaises à être à l'export. Souvent, les petits chefs d'entreprise n'ont pas d'expérience, donc il faut les aider.
Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même de la croissance?
Je pense que oui, effectivement, il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui. Et j'ai rencontré beaucoup de petits entrepreneurs qui, aujourd'hui, se projettent beaucoup plus, justement, avec cet élan dont vous parlez.
C'est pas l'effet Macron?
Oui, il y en a un petit peu, quand même. Mais l'effet Macron, alors, est-ce que c'est lié à ce qu'il fait ou est-ce qu'il est lié à sa jeunesse qui l'emmène et l'image qu'il donne? Il y a les deux, je pense.
Un reportage signé Ariane Gaffury à la porte de Versailles dans les milieux de l'ameublement, dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, où nous parlons de l'économie française avec deux invités, Benjamin Coriat, professeur d'économie à l'université de Villetaneuse Paris 13, et Denis Ferrand, directeur général de l'Institut de recherche économique Coerex et Code. On entend beaucoup de choses dans ce reportage d'Ariane Gaffury. Le repli sur le marché hexagonal, la volonté de retourner à l'international, et puis en même temps les acheteurs qui font la grise mine, parce que les grossistes, en quelque sorte, qui constatent que le pouvoir d'achat n'est pas là. Qu'est-ce que vous en pensez, Denis Ferrand ?
Oui, c'est vrai qu'il y a... J'aurais ajouté l'élément sur le niveau de prix qui est évoqué, puisque effectivement, c'est une des caractéristiques de l'économie française qui est assez remarquable, c'est que le niveau de prix en France, alors il est évalué régulièrement par l'OCDE, on se rend compte qu'on a un niveau de prix pour les biens de consommation, vraiment ce que l'on achète tous les jours, donc je ne prends pas en compte le prix de l'achat d'un bien immobilier, de l'acquisition d'un investissement dans un bien immobilier, le niveau de prix est supérieur de 4% en France à ce qu'il est en Allemagne. Alors même que le niveau du PIB par habitant, enfin de la production par habitant, est inférieur de 10% en France par rapport à l'Allemagne. Donc on a un niveau de prix qui est très supérieur à ce que serait notre niveau de vie, apprécié très grossièrement au travers d'un indicateur de PIB par habitant.
Comment vous l'expliquez ?
Ce niveau de prix, en fait, il tient à une collision de beaucoup d'éléments qui tient alors déjà à un degré de concurrence un peu moins marqué en France que notamment en Allemagne, mais également au niveau général de coûts salariaux, pas seulement dans l'industrie, mais de coûts salariaux globaux dans l'ensemble de l'économie, plus élevés en France qu'en Allemagne. Et également, on a une atypie assez spécifique à la France, qui est le fait que on a beaucoup de ce que l'on appelle de la fiscalité de production. C'est-à-dire que vous avez des prélèvements fiscaux qui interviennent alors même que l'entreprise n'a pas forcément dégagé du résultat. C'est-à-dire que la fiscalité n'est pas assise que sur les revenus, elle est aussi assise sur le fait que vous êtes une entreprise, vous avez investi, ben vous allez avoir des taxes foncières dans des proportions élevées, vous allez avoir une contribution sur la valeur ajoutée, une cotisation foncière des entreprises, des versements transport, tout un ensemble de taxes qui en fait sont associées au fait que vous existez, et donc dès lors que vous existez, vous êtes une base fiscale importante, et c'est une atypie française. En gros, on a 3 points de PIB de fiscalité de production en plus en France par rapport à l'Allemagne, et ça rentre dans le coût de production, ça rentre dans le prix.
3 points de PIB en plus par rapport à l'Allemagne et des prix élevés par rapport aux revenus moyens français.
Oui, mais moi j'aurais tendance à penser que je ne néglige pas les éléments avancés. Moi j'aurais tendance à penser que la vraie différence entre la France et d'autres pays, c'est le fait qu'on a choisi. C'est un choix sociétal, et j'ai pas vu que jusqu'à présent il y ait une majorité pour le changer, un système dans lequel on fait beaucoup de socialisation. Ça veut dire que nos prestations sociales sont prélevées et redistribuées. On est un système extrêmement redistributeur. Et d'ailleurs, ce qui est très inquiétant, c'est qu'il est plus seulement redistributeur vers les pauvres, il est extrêmement redistributeur vers les riches, désormais, avec la nouvelle politique fiscale. Bon, donc, alors effectivement, tous nos chiffres de prélèvements obligatoires, etc., par rapport à la moyenne européenne, sont plombés par ça, par cette caractéristique de redistribution. Ceci dit, moi j'insisterai sur un point par rapport à l'Allemagne, dont on ne parle absolument pas assez, qui est le coût du loyer et le coût du logement. Bon, ça fait une différence considérable entre la France et l'Allemagne, entre Paris et Berlin, par exemple, il y a une différence de l'ordre de 30%. Bon,
donc dans les loyers.
Dans les loyers. Donc, je veux dire, on a une politique. Enfin, le résultat
d'une sédimentation historique, etc., en matière de politique du logement, de politique de construction, etc., telle que le coût du loyer, pour ne pas parler de l'acquisition du logement, est devenu totalement prohibitif et mange quasiment tout le reste du pouvoir d'achat. Donc, on a un vrai problème, là, je veux dire. À Berlin, on se loge pour des prix qui n'ont absolument rien à voir au prix des grandes métropoles françaises. Alors, on trouverait une solution à ce problème. Déjà, on dégagerait un pouvoir d'achat très considérable. Nous sommes l'un des pays, je parle pas de l'Angleterre et de Londres, hein, mais par rapport à l'Allemagne, on est un pays dans lequel le pourcentage du revenu que les ménages consacrent au logement est extrêmement élevé. Et, je répète, détruit le reste du pouvoir d'achat.
Des loyers élevés, des prix élevés. Comment est-ce qu'on peut consommer? Comment est-ce qu'on peut être compétitif sur un marché international?
C'est bien là l'enjeu. Il faut bien prendre effectivement tous les éléments qui déterminent le système de prix. C'est ça qui va donner votre capacité à pouvoir vous projeter à l'extérieur. Et c'est très intéressant l'exemple que vous avez donné dans votre reportage. Une entreprise qui, en fait, s'est retirée du marché à l'export et qui, aujourd'hui, repense sa manière de se projeter à l'extérieur. Donc, on voit aussi, c'est un des signes un peu de changement. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer du point de vue de l'économie. Mais il y a quand même énormément à rattraper. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais il me semble qu'il y en a un qui est important à garder présent à l'esprit. C'est le fait que quand on compare les exportations françaises aux exportations de la zone euro, en gros, on faisait 17% des exportations de la zone euro à la fin des années 90. C'est quand même pas les calendes grecques. Hein. C'est pas Valéry Giscard d'Estaing. Maintenant, on est à 12%. On ne fait plus que 12% des exportations de l'ensemble de la zone euro. Ce passage de 17 à 12 qui est intervenu en l'espace de 16-17 ans, eh bien c'est 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'exportation qui vient à manquer. 200 milliards de chiffre d'euros, c'est 10 points de PIB. Alors, c'est pas 10 points de PIB qui manquent, parce que quand vous exportez, vous devez importer, les importations, ça vient en déduction du PIB. Mais c'est une masse considérable qui a été perdue par quelque chose que l'on n'a pas vu, quelque chose qui a été de l'ordre du délitement progressif qui s'est effectué, qui n'a pas eu un aspect de choc immédiat, de choc très très marqué, mais d'un délitement de base industrielle qui gêne fondamentalement notre capacité à rebondir.
Alors, on était tout à l'heure à Strasbourg, tout à l'heure à Paris, à la Porte de Versailles, avec le salon consacré à l'ameublement. Autre grande ville française dans laquelle nous nous arrêtons aujourd'hui, Marseille, la porte de la Méditerranée. Un grand port qui a traversé une grave crise pendant des années. Aujourd'hui, ça va mieux. Le port accueille de plus en plus de navires de croisière et mise maintenant sur la réparation navale. Objectif, réparer les navires de plus de 300 mètres de long. Un investissement public de 30 millions d'euros a eu lieu. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Stéphane Burgat à Marseille.
Inauguration en grande pompe face aux élus et armateurs, un navire de croisière est calé à sec dans un immense bassin, l'équivalent de 200 piscines olympiques, la Forme 10 remise en fonction pour accueillir les géants des mers. Christine Cabouvrel, la directrice du Grand Port Maritime.
Là, évidemment, on passe dans une dimension beaucoup plus spectaculaire, puisque la Forme 10, c'est le plus grand chantier naval à sec de Méditerranée. C'est la troisième plus grande cale sèche du monde.
10 escales techniques sont programmées pour 2018. La demande est bien là. Pourtant, l'outil existait. 17 ans d'inactivité. Il aura fallu une remise à neuf et des travaux financés par l'État, les collectivités et le port pour un peu plus de 30 millions d'euros. Et le symbole espéré d'une renaissance d'un secteur longtemps miné par les conflits sociaux, se souvient le président de la région, Renaud Muselier.
Ah, on revient de très loin. J'ai commencé ma vie politique en 93 en ayant des difficultés majeures avec la CGT. À l'époque, un port qui faisait plus de 200 jours de grève par an. Et aujourd'hui, on n'en a plus. Et le port repart. Ce qui veut dire que quand il y a un accord, une vision, bon ben voilà, ça marche.
Marseille, premier port de croisière de France et troisième d'Europe. Georges Azouz, le président de Costa Croisière France, y voit une place stratégique.
C'est un port avec beaucoup d'infrastructures, capable de recevoir énormément de grands paquebots simultanément. C'est aussi une ville qui est capable d'accueillir en son sein beaucoup de touristes.
Vue Imprenable sur la rade, le bal des navires et leurs cheminées recrachant des panaches de fumée, depuis la colline de Mouropiane, les habitants comme Jean-Pierre Hérault ont créé un collectif anti-pollution Cap au Nord face à une croissance de l'activité portuaire qu'ils jugent déraisonnée.
On ramasse quotidiennement à balayette une espèce de suie grasse qui colle. On a un chat qui normalement est tout blanc, il est gris. Et moi, ben, j'ai eu un cancer de la gorge. On n'est pas contre les bateaux de croisière, mais il faut un équilibre.
L'association France Nature Environnement a mesuré cette année une pollution aux particules fines 20 fois plus importante près du port que dans le centre-ville. Et Dominique Robin, le directeur de l'association RPACA, souhaite pour sa part nuancer.
L'augmentation du trafic, elle porte surtout sur la croisière. En termes de rejet dans l'atmosphère, aujourd'hui on estime que c'est 18% des émissions du port. Et du coup, en tendance depuis 10 ans, si on regarde la somme de l'ensemble des émissions des navires, en fait la situation est relativement stable.
Pourtant aidé par le grand port maritime avec des facilités financières, la réponse des armateurs reste pour l'heure symbolique. Il y a 2 ans, la compagnie La Méridionale, qui assure des liaisons avec la Corse, s'est équipé pour raccorder à l'électricité ses bateaux à quai. Et cette semaine, le directeur général de Costa Group a signé un protocole environnemental et la promesse d'équiper les cheminées de filtres ainsi que l'introduction dans sa flotte de navires propulsés au gaz naturel.
Un reportage signé Stéphane Burgat à Marseille. Une des questions soulevées par ce reportage, Benjamin Coriat, on la rencontre dans de nombreux autres endroits en France, c'est la compatibilité entre l'environnement, la protection de l'environnement des hommes qui vivent autour des installations industrielles et économiques. Est-ce que l'économie française verdit malgré tout ? Est-ce qu'elle s'adapte à ces nouveaux impératifs ou pas ?
Bah écoutez, moi je trouve qu'elle le fait beaucoup, beaucoup trop lentement et beaucoup, beaucoup trop timidement. Si vous voulez, c'est une question extrêmement difficile. Moi, je suis persuadé, mais vraiment je suis persuadé, que la question de la transition écologique et énergétique est la grande question des prochaines décennies. Et je suis très frappé par la timidité, par la timidité des investisseurs. Alors, sans aucun doute, puisque dans beaucoup de domaines, c'est pas encore complètement rentable, voire ça ne l'est pas du tout, l'effort de l'État doit être beaucoup plus important. Alors, non pas qu'il se substitue et qu'il devienne le maître d'œuvre de la transition écologique et énergétique, mais il faut qu'il ouvre la voie. Il faut que par ces investissements, souvent d'ailleurs en infrastructure verte entre guillemets, il crédibilise de manière définitive le fait que l'avenir est là pour faire venir ensuite l'investissement privé proprement dit. Et de ce point de vue, je trouve que l'État n'en fait pas du tout assez. Je vais vous dire très clairement, je n'espère pas que ça soit Total qui devienne leader sur la production d'énergie verte. Donc il faut le contraindre à y venir. Je dis Total exprès pour tirer la barre
très haut.
Bon, mais pour beaucoup d'entreprises du secteur privé, elles ne viendront au vert, hein, si je peux dire, que si elles sont convaincues que le marché est là. Et je trouve que les signaux donnés et les investissements donnés, donc y compris les signaux pratiques, ne sont pas assez puissants. Et je le regrette parce que je suis persuadé qu'il y a un grand avenir de ce côté et qu'il y a un leadership à prendre. L'avenir appartient aux plus audacieux. Et on n'est pas les plus audacieux, loin de là.
Les entreprises françaises manquent d'audace en matière environnementale et écologique, de différents. Est-ce que vous, quand vous les rencontrez, parce que vous en rencontrez beaucoup, est-ce que les chefs d'entreprise évoquent ces questions-là avec vous ?
Oui, très régulièrement. Hier encore, je présentais notre analyse de l'environnement économique mondial.
Donc et l'analyse de Coherex
et Code. L'analyse de Coherex et Code, et à chaque fois... j'ai eu les questions, mais est-ce que la trajectoire de croissance que vous présentez est de nature à être soutenable à l'échelle environnementale ? C'est quand même assez saisissant, et je pense que ce message-là, je ne l'entendais pas de manière aussi affirmée il y a peut-être encore 4-5 ans. Donc là encore, il y a quand même quelque chose qui est en train de changer, mais bon, il en va de l'environnement comme de l'amour. C'est bien d'avoir la déclaration, c'est encore bien mieux d'avoir les preuves. Et on a, pour l'instant, je pense qu'on a... Encore un peu dans les déclarations. Rappelez-vous aussi ce qu'avait déclaré le président Macron après que le président Trump ait annulé les engagements des États-Unis sur le climat. Il y avait des messages qui étaient très forts sur l'idée on est une terre d'accueil pour les investissements, pour l'innovation dans le domaine environnemental. Maintenant, donnons un peu des preuves à ces déclarations, à ces engagements.
Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Benjamin Coria, il faut que l'État investisse plus et soit en quelque sorte le moteur du verdissement de l'économie française.
Pas forcément. Je pense que c'est il peut avoir une force d'impulsion, mais je crois beaucoup plus en la prise de conscience, et cette prise de conscience, elle me semble être affirmée, et dans les choix d'investissement. Quand vous regardez les éléments qui déterminent les objectifs d'investissement de la part des entreprises, la composante qui consiste à avoir un respect, certes, des normes environnementales, mais également d'investir parce que l'outil de production que l'on déploie sera beaucoup plus respectueux de l'environnement, c'est une composante qui intervient de plus en plus fortement dans les choix d'investissement des entreprises.
Benjamin Coria.
Oui, non, moi je maintiens mon point de vue parce que c'est pas du tout que je sois un fanatique de l'investissement public, surtout en matière industrielle. Si l'État pouvait consacrer le peu de ressources qui lui reste à faire de la redistribution juste et égalitaire, je préférerais. Bon, donc je veux dire, je suis pas, voilà. Simplement, ce que je constate avec beaucoup d'autres, c'est que les entreprises continuent d'être extrêmement timides parce qu'elles ne croient pas encore, même si elles commencent à en être conscientes, que c'est un domaine d'investissement rentable. Donc il faut créer les conditions de cette rentabilité. C'est ça, c'est pour ça que je plaide. Après, aussi vite que l'État pourra se retirer, plus je me féliciterai. Mais il faut créer les conditions pour rendre irréversible un investissement massif dans la transition écologique. Et jusqu'à présent, ces conditions ne sont pas réunies.
Ce sont les preuves d'amour dont parlait Denis Ferrand, que vous appelez vous.
Oui, c'est ça, c'est l'épreuve d'amour. Et puis, en économiste, c'est simplement donner des signaux par de l'investissement clair que l'avenir est là et que c'est là qu'il faut aller.
Eh bien, là, nous y sommes arrivés. C'est la fin de cette émission qui est donc maintenant terminée. Merci à vous deux, Denis Ferrand et Benjamin Coria, de nous avoir éclairés sur l'état de l'économie française. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux horizons économiques. Dans l'intervalle, vous pouvez podcaster cette émission sur le site internet rfi.fr. Je vous dis au revoir.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.